Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, le mardi c'est patrimoine, et dans patrimoine il y a patrie, et la patrie c'est quelque chose d'important pour nous autour de cette table, n'est-ce pas les amis?
Je pensais que tu allais prendre le mot moine, je suis un peu surprise du coup.
Mais en fait le mot moine c'est ce que j'ai pris à l'épisode précédent. Mais comme on enregistre celui-là avant, tu ne le sais pas encore.
Parce que
c'était mon gag de fin d'épisode précédent.
Patrie, c'est fini.
Et oui, dites-le, n'ayez pas honte, tout le monde serait prêt à prendre les armes autour de cette table pour défendre nos concitoyennes et concitoyens du déferlement de hordes barbares, avides de sang et de cerveau frais, surtout... et surtout si leur couleur de peau, de près ou de loin, est un peu suspecte.
What's happening?
Murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers.
What's happening?
Chief, do you think we'll be able to defeat these things?
Yeah, they're dead. They're all messed up.
We're safe in here.
For how long, honey?
Good luck.
Good Lord.
They're coming to get you, Barbara.
La nuit des morts vivants de George Romero, nous sommes en 1968, c'est un film en noir et blanc qui ressort en salle et figurez-vous, mais peut-être ne devrais-je pas le dire, que le film, et ça a été une surprise pour moi, est disponible en licence Creative Commons sur Wikipédia. Donc on peut voir,
le voir sur Wikipédia, on peut le voir sur YouTube, mais il faut aller le voir en salle.
On parlera
un peu de pourquoi il est en licence Creative Commons.
Exactement, Alexis, pourquoi faut-il aller le voir en salle? Et pourquoi il est en Creative Commons, on verra plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'il faut retourner le voir en salle?
Parce que c'est très très bien. Non mais déjà, des films de patrimoine qui ressortent en salle de bonne qualité, et en plus dans une copie restaurée que personnellement j'ai pas vu en salle, mais en support physique, qui est de très 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 bonne facture, vraiment. Donc ouais, rien que pour ça, il faut aller le voir. Et puis surtout parce que c'est non seulement un film de genre hyper important, un film de zombies en particulier hyper important, mais aussi parce que c'est un pan d'histoire du cinéma, La Nuit des Morts Vivants. Parce qu'il faut bien comprendre que s'il y a un genre qui a infusé très rapidement dès les années 70-80 et le cinéma, et un peu plus tard les jeux vidéo, les séries télé, les comics aussi avec The Walking Dead de Robert Kirkman, bah c'est bien le genre du film de zombie. Enfin, c'est bien le genre du zombie plus spécifiquement. Et bah, ce genre-là, sa matrice originelle, l'œuvre dont il tire toute son essence, toutes ses caractéristiques, eh ben c'est La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Ça a été une œuvre fondatrice et encore aujourd'hui, on sent son influence dans de nombreuses, nombreuses œuvres pop culturelles.
Et on va revenir sur les films de zombies dont c'est effectivement la pierre angulaire. Et ce qui est intéressant par ailleurs dans ce point de départ, Arthur, c'est que le zombie est l'un des monstres qui est littéralement créé par ce film, créé par le cinéma, même si il y a quelques occurrences, notamment dans la culture populaire, dans la culture vaudou, dans la culture haïtienne, mais ce monstre-là, contrairement aux autres grands monstres du cinéma classique, de la Hammer, qui viennent tous de la littérature, il prend son point de départ dans ce film de Romero.
Bah, je suis pas vraiment d'accord, du coup.
Eh bien, tu as raison de ne pas être d'accord avec moi, parce que je ne suis pas là pour avoir raison.
Non, je suis pas d'accord. Moi, pour le coup, le zombie vient vraiment de la culture vaudou et d'un livre en particulier. Enfin, il s'est infusé dans la culture grâce à un livre sorti en 1929. Mais juste pour faire un petit rappel, c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, j'enfile mes lunettes d'historien. bonjour.
Tu n'as pas vraiment
de lunettes.
C'est un gag très peu audio, ça, pour le coup.
Et elles te vont surtout, très bien.
Surtout, il n'a pas de lunettes. Mais je l'ai fait quand même pour vous et vous devriez en être content.
Oui, il n'a pas de lunettes.
Bah, j'ai des lunettes bits, quoi. Au moins, tu aurais pu prendre des lunettes avec les ressorts qui tombent et les...
Ah ouais, putain, ou juste là, le... Bref.
Alors, non,
rapidement.
Le zombie, Arthur, raconte-nous d'où ça vient.
Le zombie vient de Haïti. Haïti, qui est une île qui a été colonisée d'abord par les conquistadors espagnols au 16e, 17e siècle, et puis qui est devenue une colonie française dans laquelle on a ramené énormément d'esclaves venant d'Afrique de l'Ouest, qui sont venus avec leurs mythes, leur mythologie, leurs croyances, dont l'une d'entre elles voudrait que l'homme a une âme séparée en deux, une qui est une espèce de force vitale, l'autre qui est une espèce de conscience, et qu'il y a des sorciers qui peuvent faire des sorts pour enlever la conscience. Et de là, donc, au départ, c'est pour amener des divinités, mais aussi des sorciers pourraient empêcher la conscience de revenir, auquel cas le corps devient une espèce d'esclave. Le sorcier peut contrôler l'humain, et de là dérive donc l'idée d'avoir un mort vivant, qu'on peut contrôler les morts. Et en fait, il se trouve que par A plus B, j'ai pas le temps de vous expliquer, à un moment, c'est plus une colonie française, l'économie d'Haïti s'effroule, les Américains débarquent, ils installent une ségrégation très forte, et il y a un bouquin, L'île magique de William Seabrook, qui sort en 1929, qui va raconter tous ces rites-là, et notamment ce rite du mort vivant, sachant que les Américains ont un point de vue sur les habitants d'Haïti très particulier, très ségrégationniste, qui les prennent pour des cannibales. Et il va y avoir un amalgame entre le cannibalisme et le mort-vivant, et c'est de là que vient la figure, et de cette publication-là, en 1929, émerge le premier film de zombies, qui s'appelle White Zombie, avec Bela Lugosi. Et pendant quelques années, le zombie va être donc une figure liée au vaudou, et puis à un moment, il y a une lassitude, les Américains sortent des Caraïbes, et donc on va injecter ça ailleurs. Donc c'est là qu'on a le Frankenstein avec Karloff, et c'est là qu'il y a un film qui est assez important, que je reconnais ne pas avoir vu, mais que je sais est assez important, qui est The Walking Dead, le mort qui marche, sorti en 36, qui est réalisé par Michael Curtis, monsieur Casablanca, et qui essaye de... Donc là, c'est un film de gangster avec un mort vivant. Il faut comprendre que là, on sort du côté vaudou, certes, et c'est en ça que tu avais raison, Nico, c'est-à-dire que c'est une créature qui... De par cet imaginaire-là, qu'on avait déjà vu ailleurs, hein, dans les mille nuits ailleurs, on le tire et on l'injecte à un autre endroit. Néanmoins, La Nuit des Morts Vivants est le premier qui va le faire de cette manière-là, avec autant de cannibalisme, avec autant de violence, avec autant de groupes, et sans une raison claire et définie. Mais on en parlera plus tard, je pense.
T'as raison, évidemment, de citer ces références, parce que de toute façon, le mort qui sort du tombeau, qui revient à la vie, c'est quelque chose qui traverse plein de légendes populaires, de mythologies locales, et pas uniquement dans les Caraïbes. On en trouve beaucoup en Europe occidentale, et même en Europe de l'Est. Ce qui est intéressant, Simon, c'est que Romero va fixer, en fait, une mythologie qui, d'un seul coup, va fixer des codes cinématographiques de cette mythologie. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de livre de référence, comme dans les autres grands monstres classiques de la Hammer, type Dracula, le loup-garou, la momie, l'homme invisible, Romero va donner des codes à un genre cinématographique.
Oui, c'est là où moi je serais un petit peu en désaccord avec toi, Arthur, parce que bien sûr qu'effectivement, il y a des éléments de la culture vaudou qui sont arrivés au cinéma et en littérature bien avant George Romero. On pourrait aussi parler de Vaudou de Jacques Tourneur de 1943, qui est un très très grand film, mais il me semble effectivement que Romero, il va réinventer complètement une mythologie. Il n'est pas du tout un descendant, si j'ose dire, du vaudou haïtien, et il va transformer ce qui est un espèce de vague substrat d'exotisme un peu dégueu, hein, dans la culture américaine, en vraiment une création à part. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pas pour rien que précédemment, le mort-vivant haïtien n'est pas devenu un genre à part entière. C'est que Romero va lui donner des codes, une mythologie. Par exemple, en général, le zombie, on n'expliquera jamais d'où il vient, on ne saura jamais exactement pourquoi il y a une contamination, une pandémie zombie.
Il y a un début d'explication, oui, il y a une phrase qui est restée célèbre dans le deuxième. L'enfer est rempli, donc les morts...
Non, mais
morts
quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Voilà. Mais c'est une phrase qui est prononcée par un prêtre à moitié sous, au milieu de la fin du monde.
Oui, c'est pas une explication, c'est surtout une mise en image de comment...
C'est une mise en symbolique, quoi.
Et de comment l'Amérique... comble le vide de la connaissance par du prosélytisme religieux. On l'a vu récemment avec la pandémie de Covid-19, avec tous les évangélistes qui sont venus nous apporter des remèdes miracles et tout. Hein.
Et on va revenir sur la portée politique de ce film et de tous les films de Romero après. Mais rester sur les origines de cette mythologie et sur la façon dont Romero vraiment va créer littéralement un genre cinématographique.
Il va créer un genre cinématographique avec une structure qui va jusqu'à présent très peu bouger sur la manière de gérer les lieux, de penser les survivants, de penser le type de tension qui les habite. Si vous n'avez pas vu La Nuit des Morts Vivants et que vous avez la série de Walking Dead, ne serait-ce qu'une ou deux saisons, hein, vous allez voir que la plupart des tensions et la nature des relations qu'il y a entre les personnages de cette série, donc beaucoup plus récente, qui arrive un demi-siècle après, eh bien, sont déjà posées dans La Nuit des Morts Vivants. La manière dont on entre en conflit, dont on se lie, dont on s'affronte ou dont on s'allie, c'est déjà posé par le film de Romero. Il y a une manière également, littéralement, de filmer ces zombies que lui aussi va être le premier à poser. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a très peu de monstres dans l'histoire du cinéma qui ont été inventés par le cinéma. Le vampire, ça vient de la littérature. Il y en a très peu. Alors bien sûr, il y a le Predator, il y a Alien, il y a Freddy. Mais en revanche, des monstres qui ont été inventés par le cinéma, qui sont devenus leur propre genre et qui ont pu migrer sur d'autres médiums, donner des jeux vidéo, des bandes dessinées, devenir des éléments fondateurs de pop culture, c'est rarissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, un jeune spectateur, enfin n'importe quoi, un jeune ou une jeune qui découvrirait les zombies, il n'est pas évident pour lui de se dire, tiens, est-ce que ça vient des jeux vidéo? Est-ce que ça vient d'une vieille légende? Est-ce que ça vient du cinéma? Est-ce que ça vient de la BD? Est-ce que ça vient de la littérature? Tant ça a émigré. Et donc, c'est très rare les créations comme ça qui viennent du cinéma et qui ont contaminé tout l'espace collectif.
Oui, mais ça vient pas non plus de nulle part, c'est ça que je voulais dire.
Ah, mais bien sûr, non, mais rien ne vient de nulle part.
Vous êtes à un niveau de philosophie vraiment sociale, de philosophie de la création, rien ne vient de nulle part. Ce podcast vraiment progresse d'épisode en épisode.
J'espère.
Sophie, relève-nous un peu le niveau, mais surtout pour nous parler de toi, la façon dont tu as vu, dont tu as vécu, en fait, finalement, cet acte fondateur du zombie au cinéma.
En fait, ce qui est super intéressant avec la Nuit des Morts Vivants, en fait, je vais vous parler du coup un peu de moi. Donc, j'ai découvert le film ado, ça y a pas trop de soucis. Le film me marque, mais c'est pas un de mes films de chevet. Mais par contre, je sais pas pourquoi je me mets dans la tête. Et jusqu'à très récemment, j'écrivais au moment de sa sortie sur Get Out que c'est le grand retour du film d'horreur sociale et que on l'avait pas vu depuis Romero. À ce stade-là. Et en fait, aujourd'hui, après avoir vu le film, en fait, j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que c'était très peu documenté. C'est une espèce de devenu de un lieu commun que La Nuit des Morts Vivants est un film immensément social. Mais malgré tout, il n'y a pas eu tant de théorie que ça. Je crois que c'est quelque chose qu'on ressent de manière assez instinctive, que ce soit sur une question de racisme qui est assez évidente. Mais en fait, on a beaucoup parlé aussi de consumérisme et que ça a lancé cette image du zombie qui représente le consommateur américain qui perd son âme, qui perd sa manière de penser vraiment le monde ou d'action.
On peut préciser juste pour donner des éléments aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu La Nuit des Morts Vivants, c'est que ce film prend pour héros, pour certainement la première fois dans un film d'horreur, un héros afro-américain. Et que l'identité afro-américaine de ce héros va être un élément crucial du discours politique qui est tenu par ce film et que Romero va par ailleurs développer dans sa première trilogie, dont on pourra reparler tout à l'heure. Mais néanmoins, effectivement, ce qui est intéressant dans ce film, peut-être qu'on peut parler de la façon dont il a été construit et dont il a été monté. Romero a toujours dit qu'il n'a jamais pris Dwayne Jones pour sa couleur de peau, mais parce que c'est un excellent acteur. Néanmoins, il y a évidemment une charge politique très très nette qui sera d'ailleurs présente dans les films suivants, puisque nous sommes en 68, on est juste quelques années après la fin l'abolition officielle de la ségrégation aux États-Unis. Arthur.
Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est un film politique pour son héros, c'est un film politique pour la représentation des zombies au moment de la guerre du Vietnam. Ça représente plein de choses. Néanmoins, ce qui est intéressant, et de ce que tu viens de dire, Nico, c'est que Romero a toujours nié le message politique du film. Il a nié effectivement avoir casté cet acteur pour sa couleur de peau. Il dit que de toute façon, le personnage était écrit dans le scénario depuis le départ comme un personnage blanc. On saura jamais la vérité. Il dit que pour lui, de toute façon, c'est un film de potes qu'ils ont fait avec 3 francs 6 sous. C'est-à-dire que vraiment, chacun a mis un peu de l'argent dans une série.
$600. Ils ont construit une société de production où chacun a mis $600. En fait,
chacun, et après, il y a eu plus. Et voilà.
Le budget total du film est de $114 000
et en fait,
de l'époque.
Eux, ils expliquent, en tout cas, Romero et Russo expliquent dans des diverses interviews qu'ils ont fait ça parce que justement, ils voulaient juste faire un film d'horreur parce que c'était le plus facile à faire, qu'ils voulaient faire un film de drive-in, qu'ils voulaient juste un film qui allait pouvoir être diffusé rapidement, faire un peu choquer vaguement, et qui allait pas coûter trop cher. Et ça se voit même dans l'approche du film, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est un film qui abandonne assez rapidement l'horreur, je trouve, pour aborder un côté parfois documentaire, parfois du côté de Hitchcock, parfois de voilà, qui va citer et qui s'éloigne du côté horrifique. Et lui, il dit, moi, je voulais pas faire un film d'horreur. Et c'est en ça que je trouve intéressant parce que du coup, ça nie toute la portée politique qu'on pourrait y trouver.
Sophie.
Bah, c'est rigolo parce que cette histoire n'est pas sans rappeler un autre film plus ou moins de zombies qui arrivait quelques années après. Evil Dead, c'est un peu le même truc. Il y a un film de potes complètement fauché. On va faire ce qu'on peut, l'horreur parce que c'est fun, bah ouais. Mais en même temps, voilà. Et c'est drôle parce que cette dynamique-là se retrouve chez plusieurs cinéastes du coup.
Mais même le zombie, Romero, il dit, moi j'ai fait ça parce que ça me coûtait pas cher en maquillage. Enfin, tu vois, il y a cette volonté-là.
Alors, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur la jeunesse du film et sur la façon dont ce film a été monté. Simon.
Oui, alors moi je voudrais aussi revenir sur les propos de Romero, c'est-à-dire que sans doute il y a plein de choses dans le film qui sont des contingences du fait de ses petits moyens, du fait de trouver comment réussir à faire un film et à le montrer, quoi, bien sûr, évidemment. Néanmoins, n'oublions pas aussi qu'aux États-Unis, c'est pas du tout valorisé d'être un réalisateur politique. Si tu veux avoir, oui, du mal à trouver du pognon, ah, et être mal pris, mal perçu et te faire enquiquiner, dis que tu fais de la politique. T'as quand même quelqu'un d'un peu arrivé comme Steven Spielberg qui, il y a quelques années, se fait Pentagon Papers et dit oh non, c'est une jolie histoire, c'est pas de la politique. Au moment où Trump arrive au pouvoir, c'est bon, c'est un petit peu ce. Moi, je veux bien que ce soit vrai, mais moi, je suis prêt à me les couper, me les manger, quoi.
J'avoue que c'est assez difficile de croire.
Ah, mais je suis d'accord.
Compte tenu de la fin, qu'on ne l'a pas révélé, que l'ambition de Romero, et quand on voit surtout les suites, et notamment
le deuxième
en 1978, qui sont des films avec une charge politique que tu as commencé à aborder et dont on reparlera tout à l'heure, mais qui sont extrêmement fortes,
bien
et
sûr,
qui ancrent d'ailleurs le zombie dans une réalité sociale et politique très forte et qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Mais ceci dit, avant d'en arriver voilà, à Zombie, qui va un peu plus structurer son discours politique, mais peut-être ce qu'il faut dire en fait du zombie de Romero, et je pense que c'est pour ça qu'il est toujours actuel, voire qu'il est en train de le redevenir immensément en ce moment, c'est qu'il fait son film en 1968. 1968, on est où aux États-Unis? Alors, il y a l'explosion de jeunesse qu'on a eu également en France avec Mai 68. Il y a tout ça qui se passe un peu partout dans le monde occidental.
Et un an avant, il y a le Summer of Love.
Voilà. Un an avant, il y a le Summer of Love. 5 ans avant, Kennedy s'est fait tuer. En fait, on est à un moment où la confiance dans les institutions américaines, dans ce qui constitue l'Amérique et le mythe américain, sont en train de complètement s'écrouler. Il y a une noirceur, une inquiétude, une angoisse qui vont donner naissance en même temps à peu près au Nouvel Hollywood, parce qu'en 1968 on va aussi avoir, mon Dieu, l'acte de naissance du Nouvel Hollywood qui est
en 67 plutôt,
oui, en 67, Bonnie and Clyde, mais voilà. Mais donc en gros, si vous voulez,
et dans le L'Oréal la même année,
absolument. Et il y a ce truc en fait que à ce moment-là vraiment il y a un sentiment de fin du monde aux États-Unis. On ne comprend pas où on est allé et on est au Vietnam en même temps, mais qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une perte de sens totale. Et tout d'un coup, tu as ce petit film dans la nuit où des humains apparaissent tels des spectres blafards pour dévorer leurs semblables sans motivation, sans raison. Alors, est-ce que Romero ne l'a pas pensé au préalable et a simplement, de manière, mais comme le fait un artiste, exprimé ce qu'il sentait de la société autour de lui? Peut-être bien, moi je veux bien croire qu'il ne l'ait pas conscientisé, mais à mon sens, la portée politique du premier, La Nuit des Morts Vivants, c'est vraiment ça. C'est ce sentiment que le monde est en train de s'écrouler et de pourrir sur pied. Et ça ressemble assez à ce qu'on peut ressentir aujourd'hui.
Et ce qui est intéressant, c'est que Romero dira par ailleurs, alors qu'il nie la portée politique, ou en tout cas le choix de son acteur principal qui est un acteur noir, il dit qu'il veut traverser, ou en tout cas proposer une relecture de la guerre du Vietnam et que c'est inspiré de la guerre du Vietnam, puisqu'on est exactement à ce moment-là en plein dedans, Alexis.
Oui, on est en plein dedans. La guerre du Vietnam, elle a pris fin en 75, pour resituer vite fait pour les auditeurs. Donc grosso modo, c'est quand même une guerre qui a couru sur un peu plus d'une décennie. C'est un conflit énorme. Et surtout, c'est un conflit qui est traumatisant, parce qu'à l'époque, il y a un truc que l'État américain a complètement sous-estimé, c'est la capacité des médias à couvrir la guerre du Vietnam. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la télévision américaine avec des images, une qui est restée emblématique, d'une petite fille qui court nue dans une route vietnamienne parce que son village vient d'être bombardé au napalm
même est en train
par
de brûler,
l'armée américaine, hein, ailleurs, et qui est en partie brûlée. Ouais. Et il y a eu plein d'images extrêmement violentes, extrêmement graphiques, qui ont été diffusées par les médias et qui ont contribué à nourrir la désapprobation d'une grande partie de l'opinion publique américaine vis-à-vis de ce conflit. Mais juste pour préciser ce que tu viens de dire, Romero a effectivement dit qu'il voulait parler du Vietnam. Je pense qu'il a parlé spécifiquement d'un aspect précis du Vietnam qui est à l'époque l'aspect le plus traumatisant pour la population américaine, qui est que régulièrement il y a des avions qui reviennent du Vietnam et qui sont littéralement remplis de cadavres, les cadavres des GIs qui sont partis se faire buter loin de chez eux. Et donc il y a quand même l'idée que on a un film en 68 en plein cœur de la guerre du Vietnam qui met quoi en scène? Qui met en scène le retour des morts qui viennent tourmenter les vivants. C'est littéralement la métaphore, je crois qu'on peut difficilement faire plus explicite en termes de métaphore, c'est la métaphore des soldats américains morts qui reviennent du Vietnam dans des avions cargo. C'est ça que le film traite, entre autres choses. Parce que je pense que ce qui a motivé Romero, et ça c'est pas un truc que j'ai réfléchi, c'est un truc là, j'ai l'intuition maintenant, donc peut-être je suis dans l'erreur, mais je pense que si Romero a été très discret sur la dimension politique du personnage principal, donc qui est joué par Dwayne Jones, qui est ce camionneur afro-américain, Ben, je pense que c'est parce que le film, hasard du calendrier, évidemment ça n'a pas été planifié par Romero, est sorti l'année de l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Donc je pense que l'image de fin est devenue involontairement, mais quand même, une image choc qui évoque un assassinat bien réel. Et je pense que ça, Romero n'était pas forcément très à l'aise avec.
Qu'il ne voulait pas faire croire qu'il avait pu jouer et qu'il faire opportunément.
Qu'il avait pu anticiper que potentiellement cet assassinat allait arriver.
Juste pour réaliser, Martin Luther King meurt début avril, le film sort en juin ou en juillet. Donc effectivement, c'est vraiment un hasard.
Et si vous nous écoutez, nous ne vous révélerons pas la fin de ce film, mais ce serait bien que vous reveniez 1 minute 30 en arrière et que vous passez à 2 minutes après pour ne pas savoir ce que nous venons de vous dire. Non, ce qui est intéressant peut-être, et ce qu'on peut dire, c'est que d'un seul coup, ce que fait Romero et ce qu'il va faire dans les suites, puisqu'il y a une première trilogie, Zombie et Le Jour des Morts Vivants, qu'il va ensuite poursuivre un peu plus tard dans les années 90, c'est de faire de ce zombie, de cette créature, une créature éminemment politique. C'est-à-dire vraiment un reflet de ce que sont les plus bas instincts de l'être humain, de ce qu'il nous reste quand nous ne sommes plus rien. Et ça, c'est intéressant parce que ça renvoie évidemment, en tout cas dans le premier La Nuit des Morts Vivants, aux assaillants et à ceux qui s'en sont sortis et donc à la résolution qui finalement deviennent moins humains que les humains. Bref, on est face à un cinéma de genre qui est un cinéma politique et qui va mettre et qui va ancrer le genre dans, dans une tradition politique qu'on pourra éventuellement retrouver après. Qui veut parler là-dessus, Sophie ?
En fait, du coup, c'est assez rigolo de regarder, et je pense qu'Arthur aura des choses à dire là-dessus aussi, sur c'est quoi l'évolution du zombie au cinéma et à quel point, des fois, il perd complètement sa portée politique et parfois non. C'est-à-dire que le zombie, on le voit de plus en plus parce qu'on a eu une vraie... nouvelle vague entre guillemets de zombies assez récente, notamment qui correspond avec The Walking Dead, ou même si on remonte un peu plus tôt avec Resident Evil, qui a porté une... Enfin, pour moi, c'est vraiment là qu'il y a eu de nouvelles vagues de films qui sont arrivés en masse, non ?
C'est 28 jours plus tard qu'il y a
eu... Oui, c'est 28 jours plus tard.
Snyder aussi, non ?
Non, c'est 28 jours plus tard.
Qui
fait courir le zombie. C'est que d'un seul coup, le zombie la nature du zombie change, mais dans 28 jours plus tard, il est encore relativement politique. Alors qu'ensuite...
J'ai l'impression qu'on a eu genre quelques marqueurs, mais qu'on a vu la figure du zombie, même d'un pays à un autre, évoluer de manière assez drastique. C'est-à-dire que là, je pense que récemment, on ne peut pas parler de zombies sans penser à Dernier Train pour Busan, qui lui-même fait écho à un autre film de zombies américain qui est World War Z, qui est une atrocité, mais où on a vraiment cette espèce de vague de masse qui enveloppe complètement genre l'humanité. C'est-à-dire qu'on est sur de l'épidémie courante, rapide, et on a perdu ce côté décharné, absent. On est sur presque de la surhumanité, mais sans le côté réflectif.
Mais tu vois, moi je trouve intéressant par exemple, parce qu'évidemment le zombie a été épuisé beaucoup par la série, enfin par différents films, c'est une figure qui a été complètement dévitalisée, et je trouve que ce qu'en fait The Sadness est très intéressant, parce que The Sadness repolitise le zombie, en tout cas on refait un monstre qui d'un seul coup a une ambition, ou en tout cas un reflet de ce qu'est devenu notre société.
C'est un révélateur,
c'est-à-dire que je trouve que le zombie de Romero que décrivait Alexis, qui est effectivement très juste, qui est le retour de ces morts du combat des années du Vietnam, celui de The Sadness aujourd'hui est le reflet de nos pulsions narcissiques, perverses, sexuelles, où d'un seul coup tout est rendu possible. Enfin, et je trouve qu'en fait le reflet et la transformation de la figure du zombie et la façon dont il a évolué au fur et à mesure de l'histoire du cinéma reflète particulièrement l'évolution de nos sociétés.
Il y a plein de gens qui ont essayé, même des tentatives complètement ratées, qui ont tenté de modifier la figure du zombie. Je pense notamment à ce film vraiment pas ouf qui était Warm Bodies, où qui était en fait le zombie devient la version de nous-mêmes qui a perdu entre guillemets cette forme d'âme et qui n'est devenu qu'un espèce de persona consumériste et qui n'a plus du tout accès à ses sentiments. Et donc en fait c'est intéressant de voir comment cette figure assez j'allais dire ancestrale, alors que pas du tout, c'était il y a pas si longtemps, mais en tout cas qui a été une figure bien définie pendant très longtemps, a tenté d'avoir plein de mutations au sein même d'un genre, ce qui est par exemple très peu le cas d'autres figures, je pense notamment au loup-garou. On a beau avoir plein de films très différents, la figure en elle-même ne peut pas trop changer. Mmh. Le zombie, c'est, le vampire, c'est pas parce qu'il brille pendant le jour que fondamentalement, ça reste pas un mec qui boit du sang dans la nuque d'une jeune fille.
Simon.
Oui, en fait, on pourrait dire, et je dis ça en étant passionné par 28 jours plus tard, que 28 jours plus tard, bien malgré lui, a amené le zombie dans l'ère du libéralisme. Le zombie doit être plus rapide, plus efficace, plus spectaculaire, faire plus de bruit. Il doit courir, speeder, runner, plutôt que d'être cette figure du grand néant qui avance lentement, inexorablement. Et on va dire ce gain de productivité, de spectacularité, c'est fait au détriment du sens. C'est quoi le sens? Pourquoi est-ce que Romero est devenu cet auteur politique? Bah, en fait, Romero, après La Nuit des Morts Vivants, il est bien enquiquiné parce qu'il a pas spécialement envie, effectivement, de faire des films d'horreur, mais on ne veut de lui, bah, que pour faire La Suite des Morts Vivants.
C'est ça qui est intéressant, c'est que Romero n'a pas forcément, en fait, son choix de faire La Nuit des Morts Vivants est un choix relativement opportuniste.
Oui, mais donc, du coup,
il a pas une culture et une envie de s'enfoncer dans le genre.
Mais comme l'industrie ne veut de lui que comme papa des zombies, il va continuer de faire des films de zombies et réfléchir à ce qu'il peut raconter ou ce qu'il aurait aimé raconter et injecter ça dans le cinéma de zombies. Il faut bien voir que Romero, et c'est là que c'est quand même un vrai cinéaste social, parce qu'il faut aussi regarder comment on fait les films. Faire du cinéma social, c'est pas juste dire j'ai envie de parler des gens qui galèrent. C'est se demander comment on fait ses films. Et ben Romero, toute sa carrière, l'intégralité de sa carrière, de ses plus petits à ses plus gros films, il les fera dans sa ville de Pittsburgh, qui n'est pas une ville de cinéma, qui n'est ni New York ni Los Angeles, qui est un bassin industriel auquel il est attaché et où il veut créer des emplois, créer de la vie, créer de la culture, créer de l'activité. Et donc tout simplement, et ben quand il voit une ville comme Pittsburgh, mais comme plein d'autres villes aux États-Unis et en Occident, être dévitalisée, détruite, voir son tissu humain et économique pourri par l'arrivée des grandes chaînes de supermarchés qui écrasent et qui nivellent tout par le bas, et ben il se dit tiens, ma suite de films de zombies, ça va se passer, c'est des gens qui, pour survivre, et ben leur château fort, ce sera un supermarché. Et qui sera le plus déshumanisé? Ces zombies dont le dernier réflexe, dans la dernière parcelle d'humanité, c'est de s'amasser devant le supermarché parce que c'était leur temple, de leur vivant? Ou est-ce que ce sont ces humains qui s'imaginent sérieusement un instant que ce sera leur citadelle? Et puis, et ben, va arriver ensuite La Nuit des Morts Vivants et il va travailler la question du pouvoir chez les humains à travers aussi bien le lobby de la science, ou on va dire le tout-science.
Le jour des morts vivants.
Le jour des morts vivants, oui, bien sûr, pardon.
Non, qui est le dernier qui se passe sur une île isolée, les zombies ont complètement envahi la Terre. Et il me semble de mémoire que ça se passe dans un endroit reclus. Il me semble que
c'est dans un silo à missiles américain.
Dans un silo, voilà.
C'est ça, ouais.
Où
c'est
il
ça.
Y a d'une part les scientifiques, d'autre part les militaires.
C'est celui avec la fin hyper gore, avec le mec qui se fait.
C'est celui surtout où ils essayent d'éduquer un zombie.
Oui,
de l'apprendre.
C'est mon préféré de la fameuse.
Le fameux zombie qui apprend à se raser.
Et puis ce rêve avec toutes les mains de zombies qui sortent à la coquille
incroyable.
Qui sort du mur.
Et qui reste un film hyper politique. C'est ça que c'est.
Bien sûr, mais qui va investir le politique autrement.
Oui, mais c'est ça qui est passionnant, Alexis, c'est que de La Nuit des Morts Vivants, alors que ça n'était pas son projet initial, à Zombie, donc l'aube des morts vivants, à Au jour des morts vivants, dans cette trilogie, vraiment, Romero livre un cinéma politique absolument, assez radical même. Rappelons-nous que dans Zombie, il nous explique que bon, pourquoi est-ce que les zombies reviennent au centre commercial? Ben parce que c'est ce qui nous amène là-bas, parce qu'on y a passé le plus de temps de notre vie et que nous ne sommes que des machines à consommer, et c'est ce qui reste de nous.
Exactement.
C'est quand même d'une violence
c'est le seul réflexe qui peut potentiellement dépasser la mort chez l'humain, c'est son réflexe de consommateur capitaliste. C'est effectivement extrêmement violent.
On est costaud d'ailleurs on est en 78 ans.
Mais c'est ça. Mais je pense que en fait, pour juste reprendre ce que disait Simon sur les conditions de fabrication des films de Romero, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les cinéastes dits sociaux, donc les cinéastes qui vont s'emparer de grands thèmes qui agitent la société sans être forcément particulièrement proche de justement cette société qui s'agite, et puis il y a les cinéastes.
Tu veux parler de Philippe Huret par exemple?
Oui, ou de Stéphane Brisé, on pourrait citer pas mal de Français.
Allez
là-dessus.
Mais Vincent Pimpon.
À partir du moment où tu mets un acteur en filtre face au prolétariat, c'est que t'es un mauvais cinéaste social. Mais en tout cas, il y a les cinéastes dits sociaux, et puis il y a les cinéastes qui sont engagés en faveur de la cause sociale, ce qui est le cas de Georges Romero. Ça, c'était juste pour conclure ton petit argumentaire, Simon. Mais en fait, ce que je trouve passionnant dans le deuxième film, Zombie, et je me permets d'en parler un peu parce que effectivement, comme tu l'as dit Nicolas, c'est une trilogie et je pense qu'on peut difficilement envisager un opus séparé des deux autres. Enfin, je trouve que c'est une trilogie qui se tient extrêmement bien.
D'une logique implacable.
Bien sûr. C'est-à-dire que voir...
Et même dans sa brutalité, dans l'évolution de la brutalité.
Et je pense que voir la trilogie d'un seul coup, les films ont une interconnexion thématique qui est assez folle. Mais je pense que dans le deuxième film, Romero a compris non seulement quelque chose de la nature humaine néolibérale et capitaliste, mais il a aussi compris quel était l'avenir du genre du film de zombies. Parce que fondamentalement, que te dit le film? Le film te dit que les zombies, sous-entendu les humains consommateurs qui regardent le film ne valent pas beaucoup mieux que les produits qu'ils achètent. Donc, ce sont des produits. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec le zombie. Il a fini par être complètement, en tant que figure pop culturelle, ravalé par la culture de masse, voilà, et par l'industrie et l'économie capitaliste. Et aujourd'hui, c'est une figure qui est mobilisée uniquement parce qu'elle est un peu effrayante et un peu dégueulasse. Et il faut peut-être à un moment se poser la question de comment on peut réinvestir durablement la figure du zombie pour en faire à nouveau quelque chose de sensé et de politique.
Alors, j'ai envie de te dire Bertrand Bonello, mais...
Non, Alexis Roux, mais ah, bien tenté.
Ah, mais parce qu'il y a un air de...
Parce qu'il y a un air.
Ah, mais c'est... Oui, t'enlèves, oui, les cheveux, t'enlèves la barbe, tu changes les yeux, le nez...
Voilà. Et... Enfin, je change de visage et d'un coup je suis Bertrand Bonello.
Zombie Michel et Bertrand Bonello étaient passionnants.
Je suis d'accord. Non, ah, Zombie Michel.
Non, mais ce que disait Alexis et poursuivons là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement cette figure de zombie extraordinairement politique s'est totalement dévitalisée et est devenue un motif de film d'horreur, mais comme à peu près beaucoup de grands boogeyman qui avaient à un moment donné qui pouvaient porter une forme de message ou de regard sur la société et qui de suite en suite et de franchise en franchise sont devenus finalement des coquilles vides. Mais moi, ce sur quoi j'avais envie de vous entendre, c'est que même Romero, quand il reprend ses films et quand il reprend sa trilogie, puisqu'il va faire trois films de plus dans les années 90 et 2000, moi, j'ai le sentiment qu'il perd complètement, que ses films sont commandés par l'industrie et qu'il perd vraiment exactement la force politique et le...
Alors... Je pourrais pas dire pour tous parce que je les ai pas tous vus. J'ai notamment pas vu Diary of the Dead.
C'est très mauvais. Hein.
Oh,
Diary of the Dead, c'est très mauvais.
C'est toi qui es très mauvais.
Pour le coup, il y en a un que j'ai vu.
Je sens très mauvais. C'est différent.
Il y en a un que j'ai vu qui correspond pas du tout à ta lecture. Pardon, Nicolas, mais c'est Land of the Dead. Quoi.
Mais oui, clairement. Land of the Dead passe encore. Ouais, mais encore, mais avec une lourdeur de les riches sont dans les tours et finalement les zombies sont des héros du prolétariat.
Et les zombies vont au supermarché, c'est pas épais.
Les zombies sont des... Non, mais c'est un peu plus épais, mais celui-là passe encore, mais après c'est une catastrophe.
Non, mais juste...
Après, le Diary of the Dead, c'est une volonté de coller à une forme de génération X et donc de jouer avec les vidéos YouTube et avec la génération Internet à laquelle il ne comprend absolument rien, et le film ne raconte absolument plus rien, et c'est juste une sorte de succession de petites scénettes. Mais pardon, excuse-moi, j'ai pas le droit de donner mon avis. Pardon, il m'envoie des charges électriques maintenant. Simon.
Oui, je lâche la télécommande. Dans Land of the Dead, alors je suis navré, c'est pas tout à fait en termes de finesse de mise en scène au niveau de la première trilogie, enfin, c'est excellent. On a un Dennis Hopper en horrible espèce de dictateur qui est une incarnation de Bush, en fait, hein, à l'époque, par rapport à l'époque à laquelle a été fait le film, le président George W. Bush, qui est très réussi, et surtout, il va même assez loin, parce qu'il nous dit pas seulement il y a les riches en haut dans les tours et les pauvres en bas, il nous dit les zombies sont des zombies parce qu'on les considère comme tels. Et ils sont monstrueux parce que les riches apprennent à ceux qui sont plus pauvres qu'eux à voir les plus miséreux comme des ennemis. Vous savez, c'est ce fameux truc qu'on dit parfois dans le libéralisme, arrête de faire comme si tu jouais du flutio avec tes doigts.
J'essaie de communiquer avec Arthur de façon non-verbale.
Avec du salami, ça ne sert à rien. Et donc, tout simplement, c'est un film dans lequel il dit un truc avec quand même 15-20 ans d'avance, où il dit attention, les grands capitalistes néolibéraux vont monter les uns contre les autres, les membres du peuple et du prolétariat, et diront aux uns, vous êtes les monstres des autres, battez-vous, nous on va se démerder. Et donc Land of the Dead, je suis pas d'accord. Quand t'as dit Diary of the Dead, ça commence à être déjà très fatigué, mais il y a des séquences superbes dans le film. Il y a toute une séquence dans un hôpital qui est absolument tétanisante et encore de très beaux restes. Puis après, hélas, il y a encore un autre épisode qui lui n'a que le mérite d'exister.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Voilà, mais on parle beaucoup du message politique du film. le film, celui-là, La Nuit des Morts Vivants, de 68, en termes de mise en scène, de représentation de l'horreur, d'effets spéciaux, de photos, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que le film est encore aujourd'hui saisissant? Est-ce que si je le regarde, moi, avec mon regard de 2023, il marche encore, Arthur?
Bah, il marche, et moi, je trouve d'autant plus fascinant par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant sur ce que le film raconte, ce que lui voulait raconter et pourquoi il l'a fait comme ça. Pour moi, Romero, c'est quelqu'un qui, on l'a dit, ne voulait pas faire de film d'horreur. Et justement, ça commence dans un cimetière qui est quand même le lieu de référence du cinéma d'horreur des années 30. Il y a une musique.
Et ça commence de jour, par ailleurs, ce qui est très saisissant pour du film d'horreur parce qu'on n'est pas dans la nuit classique, etc.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de lumière dans la nuit des morts vivants.
Quand la voiture arrive, il y a une espèce de musique très lourde qui est classique du cinéma d'horreur. Pareil, il reprend les codes du cinéma des années 30. Quand on a donc ce frère et cette sœur qui viennent sur la sépulture du père, on voit au fond un zombie qui marche. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est un zombie qui a une démarche de Frankenstein, donc le zombie des années 30, qui a le regard dans le vide comme le zombie des années 30, et qui va petit à petit arriver vers ce frère qui se moque des soi-disant morts. Il reprend tous les codes du cinéma d'horreur.
On est sur les premières minutes du film.
Ah, les toutes premières minutes.
Voilà, vraiment, c'est juste le début, on ne vous spoile rien.
Ah, je spoile rien, mais juste pour expliquer, en fait, avec le début, ensuite on a une héroïne qui part, elle est seule, c'est la classique figure de l'héroïne gothique, elle se retrouve dans une maison qui est caractérisée à trois niveaux, pareil, c'est du grand classique, et là, il se passe quelque chose que moi je trouve assez fascinant, en tout cas, moi c'est une de mes clés de lecture du film, c'est qu'il abandonne petit à petit les effets horrifiques. Il y a quasiment pas de jumpscare par la suite.
Le jumpscare, c'est une création contemporaine.
Eh ben oui, non, parce qu'il essaye au début de te faire justement peur avec ce zombie qui arrive par derrière. Il va, par exemple, faire des effets de mise en scène au début, quand on arrive dans cette maison qui va être un huis clos, hein, le refuge. Il va faire des travelling, il va faire des zooms sur les animaux empaillés. C'est des effets qu'il va totalement abandonner par la suite parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est autre chose. Il va aller chercher d'autres références. Pour moi, il va puiser dans du Hitchcock, il va puiser dans du documentaire. Et c'est très naturaliste. Il va filmer de très près la mastication des corps. Il ne veut pas couper cette partie-là. Pour moi, c'est en dehors de tous les codes de ce qu'était le cinéma d'horreur d'époque. Et c'est parce que, justement, Romero ne voulait pas faire un film d'horreur au départ, ou en tout cas ne connaissait pas assez bien, il n'avait pas envie d'en faire. Et c'est pour ça qu'il marche encore aujourd'hui, parce que c'est plus qu'un film d'horreur.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de Dwayne Jones. Judith Odie, qui joue le personnage de Barbara, est aussi vraiment un personnage central. Et un personnage central parce que c'est un personnage absolument pas sympathique, en fait.
Oui, mais en fait, surtout, il y a un truc intéressant sur ce personnage. En fait, là où tu vois que George Romero est un cinéaste cinéphile, c'est peut-être une des clés aussi de sa réussite esthétique, c'est qu'en fait, il a un tout petit peu pompé Alfred Hitchcock. Sauf qu'il a fait exactement la même chose que Psychose, mais il l'a juste condensé en à peu près 15 minutes au lieu d'en faire un truc sur une heure. C'est que la particularité narrative de Psychose, qui a été une des clés de son succès au marketing, c'est qu'on suivait une actrice, un personnage, donc Marion Crane, jouée par Janet Leigh.
Qui est harcelée par des oiseaux.
Non, pas du tout.
C'est pas le...
Non, cela étant dit, les oiseaux et les zombies, il y a aussi un comparatif.
Je confonds un truc.
Oui. La foule qui attaque l'héroïne, il y a aussi un comparatif
true story,
entre les oiseaux.
True story, hein. Bien sûr. De ouf. Mais en fait, le truc, c'est que donc on avait ce personnage qu'on suit pendant une heure, et puis au bout d'une heure, arrive Anthony Perkins, qui a l'air très sympathique, mais qui ne l'est pas tant que ça, et qui va la déglinguer
alors non, on
au couteau.
On n'a pas la même définition du sympathique, je suis désolée.
Ah, moi, je le trouve très sympathique, Anthony Perkins. Non, mais j'ai envie de lui faire un câlin,
moi
il a l'air aussi d'aller pas très bien, ce garçon.
Alors, mais on n'a pas non plus la même
coup,
définition
de déglinguer.
Je m'inquiète pour Alexis. Parce que du coup, moi, j'ai envie de faire des câlins à Anthony Perkins pour d'autres raisons, mais bon, bref, je t'en prie, Alexis.
Non, mais en fait, donc... pour résumer grossièrement, éviter les divagations, l'héroïne de Psychose se fait tuer au bout d'une heure de film.
Quoi ?
Et au bout d'une heure de film, on change.
Super,
de focalisation.
Le spoil, bravo.
Quoi ?
Ouais, ça va, oui. Non, mais
c'est une heure Psychose, Janet Leigh ?
C'était beaucoup.
45 minutes, 50
minutes. Moi, je dirais 45 minutes.
Bon, bref, on n'est pas très très loin.
Chipote,
on n'est pas loin. De mémoire, c'est l'exact milieu du film. Donc, il faudrait voir la durée précise de Psychose, mais de mémoire, c'est l'exact milieu du film. Et donc, du coup, on change d'héroïne. C'est-à-dire que déjà, on a une focalisation qui change parce qu'on passe sur Norman Bates, et puis après, on passe sur Lila Crane, la sœur de Marion. Et là, il fait la même chose, Romero, mais il va l'accélérer. C'est-à-dire qu'on a 15 premières minutes, à peu près 15 minutes hein, de mémoire, c'est peur de dire une connerie, mais en tout cas l'introduction, où on est complètement du côté de Barbara et de son frère se fait tuer, elle est pourchassée par les zombies, donc on se dit ok, bon bah c'est un prototype de Final Girl, comme on en trouvera beaucoup dans les années 70-80,
qui n'existe pas encore à l'époque par ailleurs,
qui n'existe pas encore, hein, donc il est précurseur là-dessus aussi, sauf que à partir du moment où on est dans la maison et où le personnage de Ben fait son entrée, bah, comme Barbara est en état de choc, qu'elle est passive, qu'elle n'a plus aucune prise sur l'action, et bah de fait la focalisation va se déporter vers Ben, personnage dont on n'avait absolument pas soupçonné l'existence. Et ça participe aussi à créer une espèce de climat de j'ai presque envie de dire d'insécurité narrative pour le spectateur, parce qu'en fait on se dit ok, je croyais que c'était ce personnage là le principal, en fait c'est pas le cas, donc rien ne me dit que les personnages auxquels je m'accroche vont traverser cette crise en fait, et en sortir indemne. Et ça crée un climat d'angoisse qui est propice, je trouve, à la dimension horrifique du film.
Sophie.
Je pense que ce qui est fascinant avec La Nuit des Morts Vivants, c'est que Simon l'avait dit plus tôt, sur ça a créé un espèce de schéma, que ce soit de personnage ou narratif, qui sera repris. Et pour moi, celui qui est très important, c'est qu'on vient de l'extérieur, qui est du coup un lieu de danger. On arrive à l'intérieur qui est un nouveau lieu de danger. C'est-à-dire que... Mais d'abord, on pense que c'est un safe space. Forcément, genre, barricadez-vous. Sauf que là, on arrive sur une sorte de huis clos et on a une nouvelle thématique. En fait, si on prend toute la liste des thématiques, c'est... Ok, le zombie est notre ennemi, mais peut-être que l'homme aussi. C'est-à-dire...
Peut-être que l'homme noir aussi, par ailleurs.
Ah bah là, tout le monde. C'est-à-dire qu'on est presque dans une sorte de méfiance à un style whodunit. Qui sera celui qui peut dérailler? Et il y a aussi ce truc de la personne que je connais s'est faite mordre. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a encore de l'empathie? Est-ce que l'empathie existe? Et en fait, la manière dont Romero filme la maison, c'est-à-dire qu'il va barricader ses étages. On est d'abord dans le centre. C'est-à-dire que quelqu'un a la possibilité d'aller en haut. On réfléchit en dynamique de protection. Puis après, les personnes qui ne veulent pas cohabiter, c'est un truc qu'on va retrouver dans ce fameux centre commercial dans la suite. Et donc, il y a comment le lieu devient signifiant sur sa répartition géographique, les étages, l'isolation, et comment cet endroit qu'on pense être un endroit de refuge et de sécurité, en fait, peut être détruit par l'homme lui-même et non plus par la créature extérieure.
Simon.
Tout simplement, donc on l'a déjà dit plusieurs fois, on est en 1968. À l'époque, si tu veux commencer dans le cinéma, t'as pas d'expérience, il y a deux manières.
Faut coucher avec le producteur.
Ouais, mais on peut pas tous, quoi. Et ça dépend le producteur aussi, tu vois.
Moi, je commence à faire un film, je suis OK pour coucher. Hein. Je le dis au cas où.
Oh, j'ai envie de faire un film avec toi d'un coup.
Ah, tu vas recevoir un coup de fil. Ça va moins te.
Simon,
tu laisses une chambre
celle-là. Hein, elle sera bipée.
Mais donc, en 68, bah voilà, si tu veux faire tes premières armes, t'as pas trop le choix. Tu fais du documentaire ou du porno. Ou les deux.
Je suis OK pour faire du cinéma avec toi.
Ça tombe bien. J'aime pas les documentaires. Et donc, il se trouve que Romero, il a un goût pour le documentaire et c'est un cinéphile. C'est ce qui va faire que justement, il est capable au début de faire du pastiche de cinéma gothique dans son ouverture dans le cimetière, parce que c'est vraiment une parodie. C'est un moment où il dit au spectateur, et en fait, je vais pas te jouer le programme prévu. Puis on passe dans quelque chose, vous l'avez dit, de très documentaire. Puis ensuite arrive ce siège funèbre, spectral des zombies autour de la maison, et là, il a pas de sous, il risque pas d'être documentaire là-dessus, on peut pas documenter ça, mais ça va néanmoins imprimer un peu sa manière de filmer de manière très terre-à-terre, ce que font les zombies, ils mangent, ils mastiquent, et en même temps, comme il a pas d'argent, il doit maquiller tout ça. Donc on va avoir énormément de contrastes et des zones d'ombre gigantesques à l'image, et tout ça va donner au film une qualité spectrale, encore une fois, surréaliste, parce que c'est ce vers quoi il doit aller pour pouvoir à peu près tenir l'incrédulité, le consenti du spectateur.
La suspension d'incrédulité.
Merci, la suspension d'incrédulité.
Merci.
T'es bien urbain. Et donc...
Je me souviens de ton code de carte bleue, si tu veux.
Si tu crois que tous les mois, je me rends compte que je t'en souviens, oui. Et donc, tout simplement, le film va ainsi passer des étapes stylistiques qui vont avec la dépression du film et de la société qu'il constate, jusqu'à un état de nihilisme, de terreur et d'irréalité qui te donne vraiment l'impression, même encore aujourd'hui, que le sol se dérobe sous tes pieds quand tu le regardes.
Vous aurez compris qu'il faut absolument revoir et de préférence aller revoir La Nuit des Morts Vivants de Romero sur grand écran. Par ailleurs, le noir et blanc est magnifique et c'est vraiment aller vous ressourcer vraiment à l'origine, cette graine initiale qui va créer ce que vont devenir tous les films de zombies dans les années suivantes. Mais justement, vous savez que désormais dans ces mardis de films de patrimoine, on essaie de parler d'autres choses et de moments qui ont marqué individuellement nos cinéphilies respectives. Pour le coup, l'occasion était trop belle. Vous vouliez nous parler, et Alexis et Simon, précisément, bien en fait, du même film, mais ce film refait en 1990 par Tom Savini. Tom Savini qui était censé faire les effets spéciaux du film de Romero en 68, qui n'a pas pu les faire parce qu'il est parti au service militaire. Romero lui a donné les droits. Alexis, est-ce qu'il faut voir d'abord celui en noir et blanc qui est effectivement... qui a plus vieilli, qui aujourd'hui, pour quelqu'un qui voit un film en 2023, est un film plus lointain dans l'histoire du cinéma, ou est-ce qu'il faut commencer par le Savini ?
C'est vrai que le premier film a ce que j'appelle entre guillemets le syndrome Halloween. C'est-à-dire que c'est un film qui, sans forcément inventer la totalité du genre auquel il s'attaque, a été une œuvre tellement fondatrice qu'il a influencé quantité d'autres films qui ont évidemment dépassé les limites de l'œuvre originale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on est un aficionado du cinéma de zombies et qu'on n'a pas vu La Nuit des Morts Vivants, le revoir aujourd'hui, c'est forcément un peu une déception. Il y a une certaine limite dans l'appréhension du film. Moi, j'aime beaucoup le remake de Tom Savini. Je conseillerais pas l'un ou l'autre, je conseillerais les deux, pour être tout à fait honnête.
C'est trop facile, Alexis. Non, mouille-toi pas... un peu, mouille mais ta non, chemise, mais... là. Ouais.
Alexis est né en Normandie.
Non, non, t'es un bonhomme, oui. Hein, voilà. Tu vas... Hein.
Alors, je suis pas né en Normandie, je suis né en Mayenne, mais le fait est que je sais ce que c'est que de se mouiller la chemise, parce que chez moi, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais...
Le mec voilà. Et on apprend petit à petit des éléments de biographie, comme ça, c'est passionnant.
Voilà, moi, c'est un jour où vous allez en Mayenne, continuer de rouler. Donc,
je ne sais pas qui sont ces gens.
En fait, je conseillerais les deux pour la bonne et simple raison que faut bien comprendre que le remake de Savini a pas seulement été adoubé par Romero, il a été écrit par Romero. C'est-à-dire que Romero s'est chargé, tout seul, de réécrire son propre film pour que Savini puisse ensuite le tourner. Et d'ailleurs, le film est produit par la même team qui avait produit le film d'origine. La raison pour laquelle ils ont fait ça, et là il faut faire un petit point de trivia, c'est qu'en fait, à la base, Night of the Living Dead, puisque c'est le titre original du film de 68, ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait La Nuit des Mangeurs de Chair, Night of the Flesh Eaters.
Alors, je t'interromps juste une seconde, parce que précisément pour ce genre de trivia, on avait pensé à un module qui s'appelait Le Faviez-vous, avec Fofi Favier.
Oui,
et elle n'était pas dispo.
Elle n'est pas dispo. On l'embrasse, hein. On l'embrasse.
Bisous Sophie.
Tant pis, on demandera à Love Amrou.
Love Amrou.
Heureusement que c'est pas des vraies stars parce qu'on aurait des problèmes sinon. Donc.
Continue, ne te laisse pas désarçonner.
Non, mais en fait,
sois fort.
Comme je disais, le film s'appelait Night of the Flesh Eaters et le titre a été changé tardivement. Tellement tardivement que la société de production avait déjà fait fabriquer des cartons de titres avec Night of the Flesh Eaters marqué dessus et puis le numéro du copyright. Il faut savoir que la loi américaine à l'époque, je crois que ça a changé depuis, mais j'en suis pas sûr. Donc je dis ça avec des pincettes.
En tout cas, à l'époque.
Mais à l'époque, c'est sûr, la loi américaine stipulait que pour qu'un copyright soit valide, il devait être inscrit noir sur blanc sur la pellicule et donc en général, il était inscrit sur le carton titre, parce que c'était le plus pratique. Et quand ils ont changé le titre en catastrophe et qu'ils l'ont appelé Night of the Living Dead, la boîte de prod a oublié de rajouter le copyright. Ce qui fait que le film est, à l'instant même de sa sortie, tombé dans le domaine public.
Il y a un stagiaire qui s'est fait virer, hein, clairement.
Oui, je pense qu'il y a ou assassiné.
Ce mais... qui explique, et donc on revient au début de cet entretien, que vous pouvez voir le film en salle parce que vous êtes des cinéphiles et que les vrais cinéphiles, ils vont voir les films en salle. Mais vous pouvez aussi le voir sur Wikipédia.
Oui, et sur YouTube, dans quantité de versions, et sur à peu près tous les sites qui proposent des services de vidéos, en fait. Parce que le truc, c'est que, effectivement, le film, aujourd'hui, il appartient à tout le monde, littéralement, parce qu'il est tombé dans le domaine public. Et le remake de Savini, à la base, il est pensé pour deux choses. La première, c'est parce que Romero, même s'il a eu du succès avec ses films suivants, a quand même envie symboliquement de toucher du blé avec La Nuit des Morts Vivants parce que c'est quand même son premier long et qui lui a rapporté littéralement 0 dollars.
Alors que c'est un des films les plus rentables avant.
116 000 dollars. Hein.
Voilà. Et 116 000 dollars de budget et je sais plus combien de millions de.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai juste trouvé le trivia comme quoi avant, notamment les Paranormal Activity ou autres, c'était un des films les
avant
plus rentables.
Blair Witch, en fait.
Avant Blair Witch.
Avant Blair Witch. Mais sachant que le film le plus rentable de tous les temps reste Paranormal Activity. Qui a rapporté 400 millions pour 20 000 dollars de budget.
Avec Michel Houellebecq.
Voilà. Mais...
On en parle la semaine prochaine.
Voilà. Bah oui, mais parce que c'est vraiment...
Surtout les bons écrans.
Je t'avais dit que c'était con de le vendre à 10 centimes. On t'avait dit qu'il y avait du monde qui allait le prendre.
Tu sais, moi, je suis inspiré par les franciscains et l'humilité, ça fait partie de moi.
Non, mais pour recentrer le débat autour des choses moins sales, le fait est que donc, ce film a rapporté 0 dollars. C'était l'une des premières raisons pour laquelle Romero a voulu que ce remake advienne, mais aussi pour une autre raison directement liée à la première. C'était pour éviter quantité de remakes de merde qui étaient en train de se profiler, et notamment un qui était plus ou moins prévu chez Menahem Golan, enfin la boîte de prod de Menahem Golan. Si vous ne connaissez pas Menahem Golan, allez regarder sa page Wikipédia, le mec est complètement ouf, mais il a produit énormément de films dans les années 80, et notamment Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, donc Menahem, Bloodsport, cœur-cœur, de ouf. À la fin quand il crie, bref, bon, le fait est que Romero a eu une idée de génie, il est allé lui-même proposer à Menahem Golan de d'écrire le remake. Et plutôt que de financer un remake à la con que je vais trouver nul, moi je vais t'écrire un remake produit, coproduit par mes potes et je vais le filer à mon pote Tom Savini qui, après avoir été maquilleur, notamment sur les films de Romero ultérieurs à La Nuit des Morts Vivants, est devenu réel. Et donc Tom Savini a réalisé ce remake et la raison pour laquelle je conseillerais les deux, c'est pas de la démagogie, c'est parce que le traitement du personnage de Barbara dans le remake de Tom Savini est beaucoup, beaucoup plus intéressant que le traitement du personnage d'origine, parce que tout simplement, Romero et Savini ont compris qu'entre le premier film et le remake, il s'était passé un petit truc dans le paysage du cinéma de genre qui s'appelle Alien, et qui a complètement redistribué les cartes du féminin dans l'horreur, sans compter qu'il y a aussi eu un an avant Alien, le Halloween de Carpenter, qui a aussi joué un rôle très important. Et donc, ils ont surfé sur cette vague-là. J'en dévoile pas beaucoup plus sur le tracé de Barbara, parce que déjà que j'ai spoilé le film
Barbara,
d'origine, j'ai
pas... déjà, Barbara, c'est Barbara.
Pardon, c'est vrai que...
Comme ouais, Streisand.
Comme Barbara Streisand, effectivement. Mais du coup, je n'en dévoile pas beaucoup plus, mais je trouve que le, ce que le film fait de ce personnage, et surtout de son parcours, et d'à quel point elle se fait la révélatrice des maux qui tourmentent l'Amérique, non pas dans les années 60, parce que le film n'est pas rétrograde, mais bel et bien dans les années 90, et qui montre que certains problèmes sociaux soulevés par le film d'origine, soulevés par d'autres films d'horreur, bah malheureusement sont toujours bien actifs dans l'Amérique rurale des années 90. Rien que pour ça, je préserve la fin et je vous conseille vivement le visionnage.
Ah bah la fin est folle.
Oui, il faut jeter un œil. Et puis par ailleurs, tant qu'on est là, c'est aussi intéressant de parler justement sur cette question du féminin dans l'horreur, puisque tu parlais d'Alien et du personnage de Ripley, de dire qu'il y a un livre de référence sur ce sujet. Qui s'appelle Simon, je vais te laisser en parler.
Oui, qui s'appelle Shadok, la xénographie, par Nicolas Tarmin et Simon Pio, qui est bien. Un petit mot donc sur ce film. Moi pour le coup, je vais le conseiller non pas plus, mais avant la Nuit des morts vivants de Romero. Pourquoi ? Parce que au-delà d'une éventuelle porte ouverte sur le cinéma de Romero, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée sur le zombie classique. Si vous avez vu plein de films d'infectés, plein de films avec des zombies qui courent, et que vous êtes un peu curieux de savoir qu'est-ce que c'était l'étape avant, qu'est-ce que c'est, on va dire, l'époque classique, l'âge d'or du zomblard, et bien voilà, pour le coup, me semble-t-il, une merveilleuse porte d'entrée. C'est un film qui est un espèce de néoclassique, qui est incroyablement intelligent dans sa mise en scène. Vraiment, c'est une espèce de synthèse magnifique. Moi, je l'adore, je l'ai découvert très jeune, j'avais été absolument bouleversé par le film. Et pour vous donner un petit peu une idée de ce qui vous attend, il faut voir qu'en termes de photographie et d'atmosphère, on est très proche d'un film sorti à peu près dans les mêmes eaux, qui s'appelle Cimetière. Parce qu'on a pareil une photographie très automnale, presque putrescente. Non, visuellement, le film est très très proche. Il y a des couleurs.
Sauf que Cimetière est très raté, mais.
Ah bah bien.
C'est
ce à quoi j'allais en arriver. Sauf que Cimetière, c'est pas bien, et ça, c'est très bien. Donc, autant voir le truc très bien. Oui.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est par ailleurs que c'est en fait un très bon complément à Zombie de Romero. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de jonction dans la photographie, dans le traitement des zombies, dans le traitement de la violence, qui est du coup a posteriori, alors que le film se passe avant, extrêmement. Cohérent
oui.
Par rapport à ce que veut faire Romero.
Ça
s'inclut complètement dans sa trilogie initiale.
Tout à fait. Et donc, parce qu'il faut bien voir que, parce que La Nuit des Morts Vivants était un film qui n'avait pas beaucoup de sous, donc qui a été fait en noir et blanc.
C'est pas des Sioux, c'était des personnes, des Afro-Américains aussi.
Autant pour moi. Et donc, qu'il a été fait en noir et blanc, c'est l'occasion, effectivement, de retrouver une forme de cohérence plastique, visuelle dans cette trilogie. Et donc, c'est vraiment très, très bien fait, mais surtout, ce qui est, pour moi, à mon sens, très intéressant, on aurait pu imaginer que Tom Savini, le maquilleur, le plus rock'n'roll, celui qui adore faire des maquillages super gore, gnagnagna.
Pourquoi tu dis ça avec cette voix? Est-ce que tu peux le faire avec une voix beaucoup plus flûtée?
C'est ma voix de rocker. Qu'est-ce que tu veux?
Une voix flûtée.
Ah Tom oui, Savini. Bien sûr. Et donc, on aurait pu imaginer que Tom Savini aille dans l'outrance et mette de la viande sur les murs. Or, pas du tout. Tom Savini, ne l'oublions pas, ne faisait pas tant son service militaire pendant le film de Romero que la guerre du Vietnam. Il a donc un rapport à la fois extrêmement puissant, organique, spectaculaire, mais respectueux vis-à-vis de la violence. Il n'est pas là pour faire, comme le fera KNB bien plus tard, du gros gore qui tâche. Il est là pour questionner notre rapport à la violence et en même temps poser des jalons de dépassement technique. Par exemple, il y a dans le film, je le dis pour les amateurs d'effets spéciaux, un truc qu'on voit très rarement. Vous savez, vous avez tous vu des films, que ce soit des zombies ou des humains, où on tire sur les gens. Vous savez pourquoi les gens sont toujours habillés, même quand il fait très très chaud, ou même quand c'est des zombies? Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire un impact de balle en direct sur un corps. Une gerbe de sang, un maquillage, bien sûr. Et bien dans ce film, vous remarquerez que Savini pose un soin et une attention à la putrescence des chairs, à la putrescence des peaux et à la manière dont elles s'abîment en direct devant
elles
le film.
Elles explosent en direct.
Elles explosent, elles se percent, elles se trouent, elles dégobillent de pus. Et enfin, je terminerai en disant que pour moi, les 20 premières minutes du film sont une leçon d'angoisse absolument imparable. Et le gros monsieur pourri, vous vous en rappellerez longtemps. Are you sure we're gonna be alright? Go for it, you gotta help me out! And every road out. Don't stop no matter what happens. Is just another dead end. They're coming right for us. George Romero's Night of the Living Dead.
Un autre film de zombies qui a votre affection en deux mots, hors Romero. Alexis.
Oh, oula,
ils ne sont pas prévenus, ils ne le savaient pas.
Tu me prends au déboté.
Je les prends totalement au déboté.
Alors, tu sais quoi, j'ai envie de te prendre au déboté aussi et de ne pas parler d'un film.
Non, un film, s'il te plaît.
Ok, bon, je fais un film très vite.
Non, mais si tu voulais pas parler d'un film, c'était quoi ta première idée?
Moi, c'est un jeu vidéo.
Vas-y, dis-moi.
Bah, la quadrilogie de Walking Dead par Telltale Games, que je tiens pour être non seulement un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo, mais surtout une des œuvres les plus passionnante sur la question des zombies, parce que c'est con, mais de faire...
Question du point and click, hein,
bah oui, mais justement, mais c'est là qu'est tout l'enjeu. Pour ceux qui ne savent pas, le point and click, ça consiste à cliquer sur un endroit de l'espace pour que son personnage marche vers cet endroit. Ça veut dire que le gameplay correspond littéralement à la vie d'un zombie, en fait. On marche d'un endroit à un autre. Et ça, juste ça déjà, c'est super intéressant, et puis toute la dramaturgie derrière. Je fais très court.
Non, en moi, cinéma.
En cinéma, y a un film de zombies dont évidemment j'ai envie de parler, et je pense que ça a déjà été mentionné par Sophie, mais je suis obligé d'en parler parce que ça a été pour moi un moment à la fois heureux et douloureux, parce que c'est le moment où je me suis dit « Ah, peut-être que le film de zombies peut, dans un genre tout à fait, enfin dans un style d'exploitation, peut retrouver un second souffle », qui s'est malheureusement pas confirmé, c'est Dernier Train pour Busan. Effectivement, Dernier Train pour Busan, il y avait une vigueur, une vitalité et un amour de la figure du zombie et de sa dimension extrêmement spectaculaire, extrêmement violente, que je trouvais très rafraîchissante, mais qui a pas percé malheureusement.
Sophie.
Moi, je vais troller tout le monde. Vraiment, un film de zombies que j'adore, c'est Zombiever, un film avec des castors zombies. C'est un
Zombiever. Ah ouais.
Je vous montre. Je vous mettrai la
j'avais le Blu-ray.
Aussi Bunny the Killer Thing avec le lapin zombie avec un énorme chibre.
Je vous mettrai l'affiche.
C'est un lapin, il a un énorme chibre, je suis pas sûr qu'il soit zombie.
Oui, mais c'est pas grave, c'est juste.
Je vous mettrai l'affiche sur les réseaux sociaux.
Zombiever, d'accord.
Voilà.
Et pourquoi alors? Justifie ce choix, s'il te plaît.
Parce que, c'est une période où en festival de genre, j'en avais vraiment marre de voir des fan footage avec des zombies parce que c'était facile à faire. Après Ray, que ça a été festival et c'était l'enfer. Et là. C'est vraiment une pupette, vraiment une marionnette castor très très réelle, pas en CGI, qui attaque des gens qui se transforment eux-mêmes en castor zombie et où t'as les dents qui poussent, la queue qui pousse et ça donne des trucs hyper trash.
Et Dieu sait que la queue qui pousse, Simon en a rêvé de longues années.
Vache.
Pouah. Wow. Je suis désolé, Simon, c'est sorti tout seul.
Non, alors moi, comme on m'a dit de pas trop répondre en mode private joke, c'est bon, j'encaisse.
Arthur, ton film de zombie préféré hors Romero?
Ce sera pas mon film préféré, mais c'est un petit film dont j'ai envie de parler parce que je l'ai découvert un peu par hasard en projection presse et que je trouve qu'on en parle quasiment pas. Alors le film est loin d'être parfait, mais c'est un film français sorti en 2018 qui s'appelle La Nuit a dévoré le monde. Moi je trouve que c'est pas inintéressant.
C'est drôle, c'était soit ça, soit Zombiever, donc je suis très contente que t'en parles.
Non, parce que c'est pas un film qui est parfait du tout, mais c'est un film fauché avec, c'est l'histoire d'un type qui s'endort en soirée dans un appartement parisien et qui se réveille et tout Paris est devenu zombie et qui du coup, calfeutré dans cet appartement. C'est avec Golshie Tefarani et Anders Danielsen, lié, qui est l'acteur principal de tous les Joachim Trier. C'est un tout petit truc, mais franchement, en termes de films français, je trouvais que c'était bien aussi de mentionner ce genre de film de genre-là.
Mon Simon.
Oh, mon Nicolas.
Alors, ton film de zombie préféré hors Romero serait quoi?
Oui, alors je vais juste le mentionner, mais c'est pas sur celui-là que je vais m'attarder. Bien sûr, pour moi, c'est 28 jours plus tard, qui est le seul chef-d'œuvre hors Romero, mais comme
je
il est
extrêmement. Je dis plus.
Que comme il est extrêmement connu, je vais pas m'arrêter dessus, mais évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Moi, j'aimerais revenir sur un film qui est largement passé inaperçu, alors qu'il est excellent, qui s'appelle De Last Girl en français et The Girl With All The Gifts en anglais, parce que voilà, c'est comme ça.
C'est une adaptation de M.R. Carey, qui est un excellent romancier, puisque je vous en parlais il n'y a pas très longtemps avec le livre de Collier et Rempart, qui est un remarquable.
Absolument,
bouquin,
mais ce qu'il faut savoir, c'est que.
Merveilleux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le film a largement été pensé, certes comme une excellente adaptation de son matériau original, mais aussi parce qu'il est sorti un petit peu après le jeu vidéo The Last of Us, le premier. Il a vraiment été pensé comme, on va dire, une adaptation d'un officiel de The Last of Us. C'est impressionnant, c'est évident quand on voit le film. Et ce qui est rigolo, c'est que déjà c'est vachement mieux que la série qui est un espèce de
merci Simon, bonne soirée. Et sinon, pour ce qui me concerne, bon, moi je vais vous parler du film vraiment que j'ai beaucoup aimé.
Non, c'est pas fair play, tu es obligé de laisser terminer.
Donc je disais, c'est un excellent film qui est fait avec une économie de moyens remarquable, qui est d'une intelligence assez rare dans le genre, qui ouvre des portes et des perspectives formidables. Si vous aimez The Last of Us, vous en découvrirez une adaptation merveilleuse, bien plus que le petit festival de cosplay.
Merci beaucoup, Simon, sympa.
J'ai essayé, Simon.
Et enfin, que vous soyez un garçon ou une fille, si vous aimez les filles, il y a Gemma Arterton, et voilà.
Mais vous voyez ce qu'on aurait pu éviter s'il l'avait interrompu, si vous m'aviez laissé faire? On aurait pu éviter ça. Bref, moi, je vous dirais, un truc dont on a déjà parlé, vous le savez, The Sadness. Voyage of Sadness. Pour le coup, ça transforme le zombie. Et d'un seul coup, bon, encore une fois, c'est une adaptation déguisée d'une bande dessinée merveilleuse de Garth Ennis et Steve Dillon qui s'appelle Crust, où les zombies ne sont pas juste des espèces de créatures qui mangent le cerveau des gens, mais deviennent des espèces de pervers vraiment absolu, où tout est possible. Et il ne s'agit pas juste de manger les gens, mais de faire tout ce qu'on peut et de toutes les configurations possibles d'un corps à l'autre. Et de préférence, quand on peut en ingérer une partie, c'est plus fun. Et surtout, si ce sont les parties sexuelles. Dernier tour de table, quelle est la partie du corps que vous préféreriez manger, Alexis ?
Oh, une cuisse.
Arthur ?
Un cerveau, je pense qu'en termes de texture, c'est plus rigolo.
Dégueulasse. Sophie.
J'allais dire pareil qu'Arthur.
Le cerveau, vous êtes. C'est visqueux quand même.
Non, mais cuit.
Pardon. Alors, si c'est avec des couverts, les joues, je pense que ça va être bien, les joues. Et si c'est comme un zombie direct avec les dents, les fesses ou les cuisses.
Ou les petites poignées d'amour, là, ça fait un peu comme
les fesses,
un.
C'est une bonne idée.
Un petit.
C'est toujours une bonne idée, les fesses.
Juste un tour de table rapide.
Comme un petit solilèche.
On rentre pas, ça n'est pas un débat. Ça n'est pas un débat. Bon, moi, une bonne grosse bite, mais je suis pas obligé de la. Alors voilà,
je voulais la faire, mais je me suis dit, je l'ai lu, forcément pensé.
Mais moi, je mords pas, hein, juste je goûte. C'est sur une note d'intelligence pour finir. Et vous, quel est votre Romero préféré? Quel est votre film de zombie préféré, même en dehors de Romero? Quelle est votre partie du corps préférée? Si vous la mangez vraiment, ne nous le dites pas, parce que sinon, on va appeler la police. Vous nous dites tout, en tout cas, après avoir bien enlevé les morceaux de prépuce entre les dents. Vous pouvez nous dire tout ça sur les résales sociales. @RSTrucage sur Twitter et sur Instagram. Vous le savez maintenant, puisque cet épisode est terminé, on se retrouve vendredi à 18h pétante. Non, Simon, pétante, non, c'était. Non! Oh putain, le salaud! Oh bye les amis, et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.